Et oui, nous parlons d'histoire, une histoire passionnante mais aussi douloureuse que nous ouvrons ce matin. Je veux parler de l'année 1789 et des suivantes périodes pendant laquelle l'Église a été profondément persécutée et divisée. À l'occasion de ces nombreux bouleversements, figurez-vous que le diocèse de Toulouse a eu deux évêques en même temps. Situation qui méritait d'être mise en lumière, nous en parlons ce matin avec l'auteur de l'ouvrage 1791, deux évêques pour une même cathédrale. Bonjour Père Jean-Claude Meyer.
Bonjour madame.
Vous appartenez, monsieur l'abbé, à l'association des prêtres du Prado qui, comme peut-être certains le savent, a été fondée par le bienheureux Antoine Chevrier qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II. Et puis depuis 30 ans, vous êtes aumônier de clinique, vous êtes docteur en droit, docteur en théologie et l'auteur de nombreux ouvrages touchant à l'histoire de la Révolution française et l'histoire religieuse de la région toulousaine au 19e et 20e siècle. C'est dire que vous allez grandement nous éclairer ce matin sur cette période troublée de notre histoire régionale. Tâchons, Père Jean-Claude Meyer, de poser le cadre et de faire quelques petits rappels, puisque Jonathan parlait de baccalauréat, mais je pense que nous en avons tous besoin. Nous sommes le 5 mai 1789. Le roi Louis XVI ouvre les États généraux à Versailles. Quelles sont les conséquences pour l'Église locale ?
Bien, immédiatement, il fallait envoyer des députés aux États généraux. Et parmi les députés du clergé, c'est l'archevêque, le nouvel archevêque, François de Fontanges, qui était précédemment évêque à Bourges, et avant à Nancy, et qui devient nommé évêque de Toulouse, archevêque de Toulouse. À ce moment-là, il reste peu de temps à Toulouse même, puisqu'il se trouve élu pour représenter son clergé, avec d'autres membres de son clergé, bien sûr, et il part à Paris. Et il ne reviendra pas à Toulouse ensuite.
Donc voilà, une première conséquence, un évêque, Monseigneur de Fontanges, qui part, comme vous le dites à l'instant, qui part à Paris. Et puis aussi l'abolition des privilèges et de la dîme, et là ça fait certainement beaucoup de ressources en moins pour l'Église.
Bien entendu, et aussitôt, il faut réformer l'Église.
Voilà.
Et donc, par ce biais-là, l'Assemblée constituante, les États généraux s'étant transformés en Assemblée constituante, décide de faire les réformes du royaume, et notamment... elle se mêle de réformer l'Église, mais de sa propre autorité. Finalement, elle va se constituer comme si elle était un concile. Ce sont les propos mêmes du président de séance Treillard qui se met à déclarer « Vous êtes le concile ».
Vous voulez parler en fait de la constitution civile du clergé qui a été instituée donc le 12 juillet 1790. Qu'est-ce que ça a eu comme implication pour l'Église ?
Eh bien, jusque-là, même déjà pour la fête de la Fédération du 14 juillet de 1790, c'est la joie un peu partout en France, c'est la fête de la Fédération, à Toulouse en particulier. C'est à Toulouse le doyen de la faculté de théologie, l'abbé Barthes, qui deviendra évêque jureur du Gers, qui préside à cette grande fête. Toutes les gardes nationales du département se trouvent rassemblées. C'est l'enthousiasme général. Et tout le monde, comme dans toute la France, clergé compris, prête le serment civique de servir dans la nation conformément à la nouvelle constitution qui doit être votée.
Et alors ce serment va quand même... Je suppose, l'histoire nous le dit, va diviser en fait, parce que certains vont prêter serment, d'autres ne le vont pas. Et donc il va y avoir d'un côté les réfractaires, de l'autre côté les constitutionnels. Qu'est-ce que ça va faire pour le clergé toulousain ?
Eh bien ça va faire une cassure, comme dans toute la France.
Bien sûr.
Là, selon les régions, les départements, il va y avoir une majorité de jureurs ou une majorité de réfractaires. Disons, pour faire simple, il y a une coupure en deux du clergé. Voilà. Oui. Et pourquoi cela ? Parce que la Constitution, le serment qui est demandé, c'est un serment à la Constitution, mais la Constitution civile du clergé devait faire partie de la Constitution. Et l'Assemblée constituante va décider qu'il ne peut pas y avoir de restriction des prêtres. Les députés, un nombre important de députés du clergé à l'Assemblée constituante et ensuite à l'Assemblée législative voudraient faire une restriction en ce qui concerne les questions spirituelles et cela est refusé par l'Assemblée, qui refuse de voir le cas de conscience.
Oui. Et Monseigneur de Fontan, justement, donc cet archevêque de Toulouse qui est parti à Paris, est-ce qu'il a signé cette convention civile
du clergé, bien entendu. Il va condamner son successeur constitutionnel, bien entendu.
Oui. Et alors, vous donnez une citation de cet évêque dans votre livre. Jamais l'Église n'a reconnu deux évêques dans le même siège. Celui qui a envahi mon siège et qui a osé s'asseoir à la place des Saturnins et Exupères n'est donc point votre évêque. Il n'est aux yeux de l'Église qu'un intrus, un usurpateur. Il est sans titre, sans pouvoir, sans juridiction. C'est vraiment des mots très forts. Hein.
Ah bien entendu, il prend sa place, c'est l'usurpateur.
Oui. Alors, vous êtes Père Jean-Claude Meyer, auteur de l'ouvrage 1791, Deux évêques pour une même cathédrale. Nous avons bien compris donc, qu'il y avait ce Monseigneur de Fontanges à Paris. Quel est donc cet évêque qui siège à Toulouse à cette époque-là?
Et alors, l'évêque légitime, c'est toujours Fontanges. C'est le titulaire. Et Sermé, donc, élu. Pourquoi y est-il élu? Bien parce que c'était un homme très populaire. C'était un carme déchaussé et un excellent prédicateur. Il parlait dans le dialecte le patois toulousain, donc en occitan mais toulousain, et il avait un très grand succès. Il avait le contact en particulier dans la ville de Saint-Géniès, où il fut élu comme aumônier de la garde nationale, prononçant un fameux discours qui est connu, que j'ai aussi traduit dans un autre ouvrage antérieur, Deux théologiens en révolution, Barthes et Sermé.
Et alors, que dit Sermet dans ce discours
montre que la constitution civile du clergé, elle va entraîner un retour à l'Église primitive. C'est le fameux mythe de l'Église primitive.
Donc une Église dépouillée de biens, qui partage tout.
Véritablement servante.
Et servante, oui.
C'est l'enthousiasme.
Parce que, en fait, l'Église, on lui reprochait d'avoir de grands biens et de ne pas les mettre assez à disposition. Il y avait quand même cette ambivalence.
Oui, mais seulement la critique, elle est trop dure parce que les biens servaient aussi pour toutes les activités charitables.
Bien sûr. Oui. Voilà. Les hôpitaux, l'éducation.
Alors, les hôpitaux recevaient les dîmes, percevaient eux-mêmes les dîmes. Enfin. Ces ressources vont manquer aux hôpitaux pendant la Révolution.
Oui. Et alors, est-ce que c'est... vous m'expliquez en préparant cet entretien que, comme la dîme a été supprimée, l'Église n'a plus de ressources et donc les prêtres sont devenus, entre guillemets, des fonctionnaires de l'État.
Ce sont ils sont considérés comme... Le titre exact, c'est fonctionnaires publics ecclésiastiques.
Ouais.
Et seulement s'ils prêtent le serment. Le serment est imposé, d'ailleurs... qu'à ceux qui exercent une fonction publique, c'est-à-dire évêques et curés et vicaires. Ce sont les seuls à s'en au premier serment. Le serment en suivant, qui va être l'année suivante, en 1792, le serment dit de liberté et égalité, il est imposé à tout le clergé, homme. Aux femmes, il n'est pas imposé, aux religieuses. Mais le clergé qui a refusé le premier serment, on lui interdit de prêter ce serment de liberté et égalité.
Et ceux qui ne prêtent pas serment, qu'est-ce qu'ils deviennent?
Eh bien ensuite, première conséquence, ils ne doivent pas avoir qu'un traitement réduit de moitié. Mais tout va s'aggraver ensuite. 1793, ça va être leur condamnation, donc un effet rétroactif, c'est la peine du bannissement et l'obligation d'émigrer. Ce n'est pas une émigration volontaire, c'est la peine du bannissement. Vous êtes banni du territoire national.
Donc on a, par exemple, sur le diocèse de Toulouse, on a quoi, une grosse moitié du clergé qui a quitté,
Le diocèse. Une grande partie quitte le diocèse, oui. Se soumet à la loi et franchit les Pyrénées. On part à pied.
Oui. Période noire, hein, quand même, très, très trouble.
Hein, et Fontanges, lui, se soumettant à la loi, va par émigrer en Angleterre.
D'accord. Alors, on a ce carme, le père Sermé, qui lui est donc évêque de Toulouse, qui a usurpé, en fait, en quelque sorte, le siège de Monseigneur de Fontanges. Il est, vous le disiez, zélé défenseur des réformes. Il parle très, très bien. Il parle occitan. Il a un lien avec le peuple qui est très proche. Et puis, il défend quand même le roi.
Ah bien, on est royaliste.
Oui.
Bien entendu, comme la population. Et seulement ensuite, la déclaration ensuite de lorsque le roi est déchu, évidemment, c'est tout autre chose.
Oui. Oui.
Alors, c'est la cassure.
Quelles conséquences, Père Jean-Claude Meyer, je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce livre 1791, Deux évêques pour une même cathédrale aux éditions Midi-Pyrénéennes. Quelles conséquences la coexistence de deux évêques a-t-elle eu pour la métropole toulousaine et quelles conséquences aussi sur les fidèles ?
Bien, là où le prêtre prête le serment, la plupart des fidèles suivent leur curé.
Oui.
Ça prouve bien le lien qui est intime entre le prêtre et ses paroissiens. Mm. Et là où ils le refusent, je peux dire qu'au contraire, ils deviennent son soutien et ils le soutiennent au maximum.
Donc c'est là qu'on a vu, et peut-être jusqu'au concordat, en fait une forme de résistance d'une part de la population. C'est quand même intéressant de le souligner.
Bien, c'est-à-dire que là, non seulement le clergé réfractaire va se trouver conduit à se cacher, puisqu'il est menacé d'arrestation, menacé de déportation, et on embarque les prêtres qui sont arrêtés, on les envoie
au bagne, non ?
En fait, un bagne, c'est en détention dans les prisons insalubres de Bordeaux, de la côte atlantique,
ouais.
En attendant leur déportation à la Guyane.
Ah voilà, c'est ça. Oui.
Et si on en arrête ensuite, ils risquent la peine de mort.
Et un certain nombre sont morts d'ailleurs avant même de partir en Guyane, non ?
Parce
que les prisons étaient tellement
insalubres. Il y en a une vingtaine d'ailleurs qui décèdent dans les prisons toulousaines à cause de leur âge ou des conditions de détention. 14 sur 140 qui sont déportés à ce moment-là. C'est la première déportation parce qu'il va y en avoir une seconde.
Ah oui.
Sous le directoire, eh bien, il y en a une 14 qui meurt sur le territoire national à Bordeaux ou sur les côtes de la côte atlantique.
Oui. L'église en Haute-Garonne, en cette fin du XVIIIe siècle, elle avait quoi comme physionomie ? Est-ce qu'elle avait une réputation d'une église très catholique
Mais c'était à ce moment-là, oui, il y avait une pratique religieuse très forte, bien sûr.
Oui.
La vie religieuse à Toulouse était dite Toulouse la Sainte.
Ah, Toulouse la Sainte.
Oui. Mais là, le mouvement, disons, jacobin prend le pouvoir à Toulouse, comme à Paris, dans la suite de Paris, évidemment, premièrement, les révolutionnaires modérés sont arrêtés, c'est-à-dire les Girondins sont arrêtés, les chefs de la Gironde, les chefs fédéralistes, sont envoyés à ce moment-là, on est en 1794, sont envoyés à Paris devant le tribunal révolutionnaire. Ils n'en reviendront pas, bien entendu.
Et vous m'expliquez en préparant cet entretien qu'en fait, ceux qui ont prêté serment se sont aussi fait persécuter à leur tour.
Et alors, finalement, comme Sermé lui-même s'oppose à certaines mesures prises par le gouvernement donc révolutionnaire, la Convention, il s'y oppose et lui-même il se trouve arrêté.
Ah.
Dès novembre 1993, il est incarcéré à Toulouse.
D'accord. Et alors, par conséquent, qui siège ? L'évêché reste vacant ?
Ah mais tout est fermé. Le culte est interdit.
Oui, bien sûr.
Toutes les églises sont interdites. Et là, un prêtre qui exerçait son c'était un bénédictin des Landes de Saint-Sevé quitte dans ses fonctions, il avait prêté le serment, passe par Toulouse, trouve les églises fermées et écrit à la municipalité qu'il désire pouvoir célébrer le culte.
Ah.
C'est le prêtre Gros, Gros, qui était un bénédictin, et aussitôt on l'arrête et on déclare que la procédure est immédiatement lancée. On voit en lui un ennemi de la nation.
Eh oui, bien sûr.
Et il est guillotiné.
Bon, pas de quartier pour les prêtres.
Oh, il était jureur.
Et en plus, il était jureur. Oui, oui, c'est ça. Oui. Et puis, il faut préciser peut-être que les congrégations religieuses avaient aussi été vidées de leur religieux.
Alors ça, c'est 1790. Oui. C'était la première mesure. Pour trouver des revenus, il fallait vendre les biens.
Oui.
Du clergé, et donc on regroupe, c'est la décision de l'Assemblée constituante alors, regrouper les religieux qui se trouvent dans des maisons peu nombreuses, parce que en nombre insuffisant, et on les regroupe à Toulouse, on les regroupe et on mélange tout le monde, quoi.
Et oui, oui, c'est ça. Une dernière question, Père Jean-Claude Meyer, sur cette coexistence des deux évêques. Vous disiez que Monseigneur de Feuillefontange, donc l'évêque qui siégeait à Paris, était parti en Angleterre. Le Père Sermet, le frère Carme Sermet, qui siégeait au siège épiscopal du diocèse de Toulouse, avait été arrêté. Maintenant, quelle dernière conséquence finalement pour le diocèse et puis pour
diocèse,
les fidèles.
Le culte célèbre en secret quand c'est possible.
Ah oui.
Parfois dans les demeures des particuliers, malgré les menaces des perquisitions à l'improviste, c'est là où des prêtres sont arrêtés, des fidèles sont aussi arrêtés.
Oui.
Et dans tout le département.
Donc des fidèles et une part du clergé quand même extrêmement courageux et prenant des risques.
Et bien entendu.
Ouais.
C'est surtout pour porter les sacrements, l'extrême-onction aux malades qu'on arrête des prêtres.
Ah bah oui, bien sûr. Ouais. C'est maintenant l'heure de terminer notre entretien, Père Jean-Claude Meyer. Je vous remercie beaucoup. Vous nous avez éclairé sur cette période trouble de notre histoire et vous nous avez expliqué comment la métropole toulousaine en 1791 avait pu être gouvernée par deux évêques. Merci beaucoup.